La France aura retenu son souffle pendant des mois avant de découvrir la face cachée de Jonathan Daval. Celui que tous pensaient être un veuf éploré se révélera finalement être aux yeux de l'opinion publique un meurtrier froid et manipulateur. Retour sur une affaire qui a provoqué l'émoi. Que s'est-il passé ce jour-là ? Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Zone d'ombre sur Radio Orient avec Wallis Glaise.
Et l'histoire commence le 28 octobre 2017. Un appel à témoins est lancé après la disparition d'Alexia Daval au cours de son jogging en Haute-Saône. Deux jours plus tard, son corps calciné est retrouvé dissimulé sous des branchages, dans le bois près de Guéret, à plusieurs kilomètres du parcours qu'elle empruntait habituellement. La famille d'Alexia Daval lui dira adieu avec une cérémonie célébrée en la basilique de Guéret quelques jours plus tard. Lors de plusieurs événements publics, un certain Jonathan Daval, son mari, était apparu très affecté par la disparition de son épouse. Le 29 janvier 2018, le mari de la joggeuse est interpellé et placé en garde à vue. Le lendemain, l'homme avoue avoir tué sa femme Alexia. Devant la presse, son avocat, Maître Schwendorfer, explique que le jeune informaticien avait perdu pied, pris dans une relation de couple avec de très fortes tensions.
Il y a juste un garçon qui perd pied, un accident. Oui, il l'a étranglé dans un moment, dans ce qu'on peut appeler des violences volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, c'est comme ça que le droit appelle ça, et qu'après, il a été dépassé partout. Entre l'envie d'appeler les gendarmes, la peur de les appeler, la peur de voir toute sa vie détruite, il n'a rien géré. Si on a autant d'indices, si on a autant de preuves, y compris 3 mois après les faits, c'est qu'on n'a rien caché, c'est qu'on n'était pas dans une logique criminelle. Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé.
L'homme aurait donc perdu pied. Le 27 juin 2018, Jonathan Daval fait de nouvelles déclarations à un juge d'instruction. Il nie alors avoir tué son épouse et accuse son beau-frère, Grégory Gay, d'avoir étranglé la victime au domicile de ses parents. Le 23 août, dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien, celui-ci réplique, dénonçant les accusations ridicules et machiavéliques de Jonathan. Il portera même plainte pour dénonciation calomnieuse. Le 7 décembre 2018, alors qu'il a changé de version à plusieurs reprises après une confrontation avec sa belle-famille, l'informaticien avoue avoir tué sa femme seule avant de transporter son corps. Lors de la reconstitution du meurtre le 17 juin 2019, Jonathan Daval reconnaît avoir lui-même procédé à la crémation partielle du corps de sa femme Alexia. C'est ce qu'annonce le procureur de Besançon, Étienne Manteau.
Daval continuait à nier avoir porté atteinte au corps de son épouse et face notamment à la demande pressante de ses beaux-parents qui l'ont imploré de dire toute la vérité, et après un temps d'échange avec ses conseils, M. Daval a finalement admis qu'il avait non seulement donné la mort à Alexia Daval, mais qu'il avait également procédé à cette crémation partielle du corps.
Le 16 novembre 2020, le procès du mari de la joggeuse s'ouvre enfin. Jonathan Daval, accusé du meurtre de son épouse en 2017, est confronté à ses anciens beaux-parents, déterminés à lui dire ce qu'ils ont sur le cœur. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, s'exprime.
Je sais que c'est une journée très importante, que c'est le jour ou jamais où je vais pouvoir lui parler.
C'est le dernier jour.
Voilà. Donc, va falloir que je lui dise tout ce que j'ai sur le cœur.
Madame, vous sentez prête ? Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ?
On verra. Qu'il craque encore une fois, mais ne me mettez pas trop de pression.
De son côté, Maître Jean-Marc Florent, l'avocat de la famille, estime que les parents d'Alexia Daval veulent juste comprendre ce qu'il s'est passé, sans forcément accabler leur gendre.
Ils faisaient partie de leur famille, c'est leur gendre. Ils n'avaient rien à lui reprocher, ils n'ont rien vu venir, maintenant ils voudraient comprendre. C'est très dur, parce que finalement, en 3 mois, ils ont perdu leur fille dans des conditions atroces que vous connaissez. Mais ils ont perdu également leur gendre, qui avait toute sa place dans leur famille. Et aujourd'hui, autour de la table familiale, il y a 2 assiettes de moins. Moi, je suis très satisfait qu'il ait commencé à avouer, pour mes clients, parce que c'est un réconfort, et pour lui, parce que c'est le chemin de la reconstruction, et pour la vérité tout court et la vérité judiciaire. Mais il y a encore, naturellement, beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir pour Jonathan Daval.
Rebondissement le troisième jour du procès. Après avoir présenté ses excuses, Jonathan Daval s'est évanoui, l'audience est suspendue. Le 21 novembre, il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse. Mais alors que s'est-il véritablement passé ? Tout commence le vendredi 27 octobre 2017. Alexia Daval, une jeune employée de banque de 29 ans, et son mari Jonathan Daval, technicien en informatique de 34 ans, marié depuis 2 ans, se rendent chez les parents d'Alexia où ils partagent une raclette. De retour chez eux à Gray, une dispute conjugale éclate dans la soirée. Il semble que le couple rencontrait des difficultés pour avoir un enfant. Des échanges de SMS verbalement violents, remontant à plusieurs semaines avant les faits, et dans lesquels Alexia traitait son mari d'impuissant. De son côté, Alexia prenait, semble-t-il, des médicaments pour la fertilité, et certains d'entre eux sont connus pour entraîner des pics d'humeur, précise l'avocat des parents de la jeune femme. Maître Schwendorfer, avocat de Jonathan Daval, va plus loin. Il assure qu'Alexia Daval avait une personnalité écrasante et qu'en face, Jonathan se sentait rabaissé. Ce qui est sûr, c'est que la jeune femme est morte par strangulation. Des marques de lutte ont été retrouvées sur le corps de la victime et sur celui de son compagnon qui avait des traces de griffures et de morsures sur les bras. Se retrouvant désemparé face au corps, il y aurait alors enfilé ses baskets. En revanche, il assure que c'est elle qui s'est mise en short et en t-shirt pour être à l'aise en rentrant chez eux. Vers 1h30 du matin, un voisin entend un véhicule démarrer chez les Daval. Le mari confirme qu'il a reculé sa voiture dans le garage, puis qu'il a placé le corps recouvert d'un drap. Et ce n'est que vers 8h du matin qu'il aurait pris le véhicule pour atteindre le bois où il aurait déposé le corps. Près du bois où le corps d'Alexia a été retrouvé le lundi suivant, les enquêteurs ont aussi relevé des traces de pneus compatibles avec la voiture du mari. Le lendemain de la dispute, samedi 28 octobre, un SMS aurait été envoyé depuis le téléphone d'Alexia à sa sœur, lui indiquant qu'elle passerait la voir après son jogging. Un message probablement envoyé par Jonathan Daval lui-même pour brouiller les pistes. Jonathan Daval sera ensuite à son travail à 10h45 pour dépanner une imprimante. Son employeur le trouve souriant comme d'habitude, ne laissant rien paraître. Puis il va rendre visite à sa mère, à sa belle famille, et signale rapidement la disparition de sa femme, partie faire un jogging vers 9h. Il envoie aussi sur le portable de sa femme des SMS lui demandant où elle se trouve. Les gendarmes émettent un appel à témoins pour disparition inquiétante, relayé notamment sur le compte Facebook de la gendarmerie de Hudson. Les gendarmes ont rapidement émis un appel à témoins pour disparition inquiétante. Le dimanche matin, une battue à laquelle 200 personnes participent est organisée pour tenter de retrouver la jeune femme. Le cousin d'Alexia confie un détail révélateur. Il aurait vite abandonné les recherches. Il buvait une tisane, pendant que nous, la famille, on battait la campagne. Le corps est finalement retrouvé le lundi, partiellement calciné, caché sous des branchages et entouré d'un drap. À partir de là, les enquêteurs explorent toutes les hypothèses, celles d'un crime de rôdeur ou d'un délinquant sexuel, d'un crime lié à un adultère, d'un accident maquillé, des hypothèses progressivement évacuées par les enquêteurs. Face aux caméras, Jonathan Daval, qui est toujours soutenu par sa belle famille, apparaît à plusieurs occasions le visage tordu par le chagrin, encadré par ses beaux-parents. Le 5 novembre, jour de la marche blanche, dans un discours ponctué de sanglots, il racontait la passion pour le sport qui les unissait, sa femme et lui.
Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène, la force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Nous savions puiser de nos regards, nos échanges, l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. De tous ces moments autour du sport, aucun n'aurait été plus intense, plus riche en émotions à mes yeux, que nos runs du week-end où seules les notions de partage et de plaisir nous apportaient. La force de notre couple nous faisait nous dépasser dans nos sorties et dans notre vie commune. Cette plénitude me manquera terriblement.
Pendant trois mois, Jonathan Daval continue à donner le change, participant même aux fêtes de Noël avec ses beaux-parents. Pendant ce temps, 500 gendarmes travaillent à cette enquête qualifiée d'exemplaire par le procureur de la République. Ils recueillent les éléments qui conduisent le lundi 29 janvier à l'interpellation du jeune suspect. Pendant trois mois, Jonathan Daval continue à donner le change, participant même aux fêtes de Noël avec ses beaux-parents. Pendant ce temps, 500 gendarmes travaillent à cette enquête, qualifiée d'exemplaire par le procureur de la République. Ils recueillent les éléments qui conduisent à l'interpellation du jeune suspect, téléphonie, examen du véhicule, traces de pneus, morceaux de tissu retrouvés près du corps. Une perquisition est aussi menée ce jour-là à son domicile. La mère d'Alexia, alors entendue par les gendarmes, aurait alors reconnu les draps dans lesquels se trouvait le corps et confirme ce que pensaient les gendarmes, à savoir qu'il provenait bien de la maison du couple. La suite, vous la connaissez désormais. Jonathan Daval passe aux aveux, reconnaissant avoir tué sa femme par accident en l'étranglant. Mais une question demeure. Quel est le profil psychologique de Jonathan Daval?
Élément de réponse avec le psychiatre Jean Canterino. Il a examiné Jonathan Daval durant le procès. Il relève les troubles de la personnalité de Jonathan Daval.
C'est une personne qui a de gros problèmes de personnalité. Il a une personnalité obsessionnelle. C'est-à-dire que les obsessionnels sont des personnes qui refoulent leur agressivité. Parce que l'agressivité est importante et ils la refoulent. En contrepartie, ils donnent à voir aux autres et à eux-mêmes, hein, c'est pas du tout de la manipulation, de l'hypocrisie ou quoi que ce soit, ce ne sont pas des tartuffes. Hein. Ce ne sont pas des tartuffes comme les pervers. Ils donnent à voir aux autres et à lui-même, donc, une image hyper normale. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment l'ordre, la propreté, qui sont, on dirait en langage courant, qui sont très BCBG. Et parce que toute l'agressivité est refoulée, de façon inconsciente, le refoulement. Encore une fois, ce ne sont pas des pervers, c'est très important à souligner. Et bon, ben, ça marche plus ou moins bien, mais dans certaines circonstances, parce que l'agressivité, on la refoule, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Finalement, c'est le système cocotte-minute. S'il y a trop d'agressivité qui est refoulée, il y a un moment, ça peut exploser. Et là, ça peut exploser sur un mode très violent, que ce soit sur le mode auto ou hétéro-agressif. Et voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé d'un point de vue psychique dans cette histoire. Dans ce crime qui est la suite d'une situation conjugale qui, selon ses dires à lui, parce que, ben, hélas, la version de la victime, ben, par définition, on ne peut pas l'avoir. C'est-à-dire que c'était une relation conjugale qui était devenue extrêmement conflictuelle entre eux.
Le psychiatre Jean Canterino, qui, je le rappelle, a examiné Jonathan Daval durant le procès. Jonathan Daval purge sa peine en Alsace aujourd'hui, une région où le pénitentiaire est tristement célèbre pour accueillir quelques-uns des détenus les plus dangereux de France. Ce dernier cohabite notamment avec les tueurs en série, Guy Georges, Francis Holm, Patrice Allègre ou encore le pédocriminel Nordal Lelandais. C'est la fin de votre épisode de Zone d'ombre. Retrouvez-moi très bientôt pour un prochain numéro. C'était Zone d'ombre sur Radio Orient. Retrouvez cette émission sur toutes les plateformes.